En air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Principe Actif, vous écoutez un air de vie. Un air de vie que nous allons consacrer aujourd'hui à une sortie découverte nature. On va recevoir un invité qu'on va vous présenter dans quelques instants. Bonsoir Fred.
Salut Jérôme.
Bonsoir Kevin.
Salut Jérôme.
Et donc nous recevons ce soir Philippe Girard qui a été l'animateur de cette sortie nature et que je vais laisser très rapidement se présenter.
Bonsoir, je suis membre de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, et puis je fais des petites animations nature de temps en temps. Je suis passionné par l'environnement et la nature.
Et donc on va écouter un reportage sur cette sortie découverte nature, mais avant tout un point d'actualité. Fred ?
Alors oui, un point d'actualité, un tout petit point d'actualité. On ne reviendra pas aujourd'hui sur la loi sur la durée de vie des centrales, sur le gaz de schiste en France qui finalement a été invalidé. Moi, je voulais juste dire un petit point pour dire que je me suis lancé à titre personnel dans le défi famille énergie et on a commencé à faire des petits enregistrements, donc on aura des nouvelles régulièrement de ce défi.
C'est la LEC 27, c'est ça ?
Voilà, organisé par la LEC 27. Sur le GEA d'Evreux, il y avait une réunion hier soir, on peut toujours aller s'inscrire sur l'adresse mail que j'ai mis, l'adresse que j'ai mise sur le site.
Le lien.
Et il faut constituer une équipe, et cette équipe doit s'engager à faire au moins 8% d'économie d'énergie sur un an.
Autre sujet d'actualité, donc le gaspillage alimentaire. Le 16 octobre dernier, c'était la journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, ça répond donc au lancement d'un pacte national contre le gaspillage alimentaire, dont ce pacte avait été lancé le 14 juin. Et à l'initiative de ce pacte, le ministre délégué à l'agroalimentaire. Et donc, avec un objectif pour ce pacte de réduire par deux le gaspillage alimentaire d'ici à 2025. Rappelons que le gaspillage alimentaire actuellement, c'est 20 à 30 kilos de nourriture jetée par chaque Français, dont 7 kilos encore emballés. Donc en fait, ce que prévoit ce pacte, c'est une grosse campagne de publicité, mais aussi différentes actions dans les écoles, en partenariat avec les grandes surfaces. Et donc, comme je l'indiquais, une publicité, mais donc un affichage avec des slogans un peu rigolos comme « qui jette un œuf, jette un bœuf », j'aime la nourriture, je la respecte, voilà. Évidemment, le travail se fera aussi sur, les dates limites de consommation, ce genre de choses, bien savoir mesurer ses besoins en termes de consommation. Voilà.
Fred ? Juste un petit point, toute cette nourriture gâchée servirait largement à nourrir tous les gens qui sont actuellement dans des situations de malnutrition, surtout l'ensemble de la planète.
Ouais, alors ça, c'est un truc qui me fait marrer, j'en profite tout de suite pour faire un petit parallèle, parce qu'on a parlé, il y a eu un reportage le 8 octobre sur Arte à propos de la viande in vitro, et justement, ils se servent de cet argument-là pour parler de la fin du monde, enfin, de la fin dans le monde, et essayer de résoudre ce problème-là, et c'est exactement le même argumentaire qu'ils font avec les OGM pour dire, tiens, ça, on va profiter pour nourrir tout le monde, alors que finalement, on se rend compte qu'il y a du gaspillage, et en fait, il faut toujours produire plus pour assouvir une consommation sans remettre en question la consommation. Oui, c'est un peu un raisonnement des Shadocks, quoi.
Ce qui est déjà produit, il serait déjà suffisant.
Alors, Philippe,
peut-être si on consommait plus local, et y compris pourquoi pas bio, ce serait un moyen de réduire les emballages, de moins jeter et d'avoir une nourriture de bonne qualité.
Oui, et puis je pense qu'il y a l'effet prix. Il y a une telle concurrence pour réduire aujourd'hui les prix, notamment sur l'effet de l'action des grandes surfaces, qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est si peu cher, notamment avoir des tomates à 80 centimes le kilo, qu'il y a une sorte de déresponsabilisation vis-à-vis de la nourriture et puis de ce qu'on peut en faire.
Voilà.
Bien. Est-ce que je peux avoir un tout petit point d'actualité aussi ?
Allez. Bien sûr. Philippe.
Alors, ça va vous paraître bizarre. Ça, au départ, ce n'est pas vraiment l'environnement. Il y a une comète qui va passer bientôt. Vous êtes au courant ?
Non.
Il y a une comète qui s'appelle Ison, qui commence à briller dans le ciel et elle est assez prometteuse. Elle devrait vraiment briller au mois de novembre et on devrait la voir plutôt en fin de nuit et à l'est. Et alors ça me donne l'occasion de faire un petit discours un peu écologique. Quoi. Mmh. On a nos villes qui sont toujours très éclairées la nuit et il faut essayer de faire attention à réduire cet éclairage. Et il y a une association qui s'occupe de ça. Moi, je fais partie d'un village qui a 5 étoiles. On éteint la nuit nos lampadaires. Et donc, voilà, cette association, c'est l'ANPCE.
Bien. Qui veut dire ?
C'est une association qui s'occupe de réduire l'éclairage. Alors, c'est aussi bien bon pour la faune que pour les gens. Et finalement, ça n'augmente pas l'insécurité, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient.
Très bien. Messieurs, je vous propose qu'on se retrouve après le reportage qui va durer 35 minutes. Et donc, je vous dis à tout à l'heure.
Immersion donc dans cette journée avec la LPO sur le site du GISACOM.
Et monsieur Gérard. Bonjour.
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 Y a-t-il un monsieur Girard dans l'assemblée ?
Il arrive là.
Ok, merci bien.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Enchanté, Kevin.
Donc c'est Daniel Chenet, Philippe Girard qui va s'occuper de la sortie. Vous voulez des jumelles ?
Oui, je veux bien. Volontiers. Moi j'aurais déjà.
Bonjour à tout le monde, Philippe Girard. On va bientôt démarrer. Alors, il y a un mythe.
Oh, super, merci voilà. Bien.
Daniel est parti.
Allez hop, démarrons.
On va y aller. On va faire une toute petite promenade. On va aller sur le site des thermes. Vous avez vu quel est le thème de la sortie d'aujourd'hui. C'est les oiseaux et la saison, les oiseaux en automne. Donc je ne sais pas si j'ai vu certains d'entre vous, donc je suis Philippe Girard, je vais vous emmener sur l'animation. Et nous avons avec nous un deuxième membre de la LPO, qui s'est déjà caché, qui est Daniel Chenet, qui est la présidente de la LPO Normandie. Donc le thème, c'est l'automne des oiseaux. C'est en fait le thème de GISACOM cette année, ce sont les saisons. Et donc nous, avec la LPO, on s'est inclus dans ce thème-là et on a fait une animation au printemps. Et on fait aujourd'hui une animation en automne. Et on va essayer de comparer, on va essayer de regarder ce qu'on a vu au printemps, ce qu'on voit en automne, est-ce qu'il y a une différence, pourquoi il y a une différence, etc. On va essayer de comprendre. Personne n'était là au printemps, je crois. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai la liste là des oiseaux qu'on avait vus. On avait quand même vu 32 oiseaux, ce qui est pas mal. Bon, ben voilà, 32 espèces, oui, plus d'oiseaux que ça, mais 32 sortes d'oiseaux différentes. On peut peut-être commencer par un petit peu de silence et puis essayer de regarder et d'écouter, et puis de voir ce qu'on a ici. Avez-vous entendu le tit-tout-tout ? Vous savez ce que c'est ?
Non.
C'est une maison charbonnière. C'est une maison charbonnière qui a volé là. C'est peut-être la même qui vole. Et c'est son petit sifflet caractéristique. C'est un de ses petits sifflets caractéristiques. Alors elles sont coquines, les maisons, elles ont plein de chants différents. Alors sinon, il y a plein de bruits, il y a plein de sifflements assez bizarres. Vous avez entendu par là ? Ça, c'est des coquins. C'est les étourneaux. Les étourneaux sansonnets qu'on a vus à la jumelle, si vous voulez. Ah non, ils sont partis.
Ah oui.
Alors, ils sont pas... Ah oui, puis là, un vol, là.
Alors, vous regardez.
Alors, c'est des quoi ?
Des mouettes.
C'est de quelle couleur?
Blanc.
Non.
Des goélands.
Voilà.
Oui, c'est plutôt des goélands.
Ouais.
Pardon? Le dessous des ailes n'est pas noir.
C'est des mouettes. Ouais.
Et c'est des mouettes? Ah, je me suis trompé alors. Daniel. C'est des mouettes. Bah si, ça doit être de la rieuse alors.
Alors, on doit demander qu'elle repasse.
C'est quoi la différence entre une mouette et un goéland?
Alors, les mouettes sont un petit peu plus petites chez nous. Mais si on a la chance d'en voir, alors évidemment, je vais pouvoir vous les montrer sur le livre.
Je peux vous dire.
C'est pas très radiophonique.
C'est ça. C'est sur les oiseaux les plus communs. Par contre, on vous demande de le rendre à la fin de la petite séance parce que ce sont des photocopies couleurs et comme on n'a pas les moyens de...
Pour ceux qui veulent voir les mouettes et les goélands, voilà la mouette rieuse qu'on voit ici.
Avec une petite tête noire.
Alors, avec une petite tête noire, mais pas toujours, pas systématiquement. Il y a des périodes où elle n'a pas sa petite tête noire. Elle est repérable parce qu'elle a des traces blanches sur le bord de l'aile. Bon, ça se ressemble quand même beaucoup, c'est la même famille. Hein. C'est la même famille, c'est la famille des Laridés. Donc, en général, les ailes, le dessus des ailes et le dos est gris. Le ventre est blanc. Et les deux goélands qu'on a dans la région en ce moment, c'est le goéland argenté et surtout le goéland brun. On a pas mal de goélands bruns en ce moment. Donc on voit que le dos est gris,
oui,
pareil.
Entièrement gris.
Blanc.
Ah, oui.
Donc ça se ressemble vraiment beaucoup. De près, le bec est... Enfin, l'oiseau est plus fort.
Oui, il a l'air plus costaud le bec. Là.
Et
ouais.
Puis le bec a cette petite tache rouge caractéristique que n'a pas la mouette rieuse. La mouette rieuse est plus fine.
Ah, oui.
Et alors après, quand on a l'habitude, le vol est différent. Le vol est beaucoup plus léger, souple pour la mouette.
Est-ce qu'on voit dans les champs
c'est ça, c'est souvent... Alors les deux, ils aiment bien être ensemble. Mais en ce moment, il y a pas mal de goélands.
D'accord. Et pourquoi est-ce qu'ils reviennent par là? Parce que normalement,
alors, les goélands, oui, sauf que les goélands et les mouettes rieuses se sont bien adaptés à l'homme.
Oui, c'est ça.
Et ils aiment bien profiter des restes des humains. On les voit beaucoup dans les décharges. Enfin,
oui,
il y a moins de décharges publiques maintenant.
Il paraît que c'était ça qui les attirait.
Voilà. Et là, ils aiment bien les labours, ils suivent les...
Oui.
Alors c'est assez amusant parce qu'ils suivent les tracteurs, ouais, qui labourent, un peu comme en mer, ils suivent les bateaux.
Quand on a la Vénissa.
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Petite fille,
je voulais vous reparler de l'étourneau. L'étourneau, il est assez banal. Il paraît assez banal comme ça. En fait, il est assez joli. Il est assez joli quand on le regarde de près. Il est moucheté. Je ne sais pas si vous avez vu à la longue vue. Et puis, à cette saison-là, il est moins joli. Mais il y a quand même, à certaines saisons, des irisations. Il est doré, vert métallique. Et c'est un oiseau qui est assez joli, qui est assez intelligent, qui vit en groupe. Et il imite plein d'autres oiseaux. Il a plein de cris différents. Et je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais il y a eu un cri qui ressemblait à un cri de buse. Et en fait, ce n'était pas une buse, c'était les tourneaux qui étaient là et qui s'amusaient. Il y a une petite anecdote assez rigolote. C'est une amie, je ne sais plus qui nous a raconté ça, une amie qui avait un portail rouillé chez elle. Et puis ça l'énervait d'entendre tout le temps ce portail rouillé. Alors un jour, elle a bien huilé son portail, elle était contente d'elle. Voilà, son portail faisait plus de bruit. Le lendemain matin, elle se réveille, elle entend le même bruit. Alors là, elle va voir, elle essaye son portail, et en fait, non, le portail marchait bien, mais c'était les tourneaux qui imitaient le
bruit du portail.
Le bruit du portail.
Ouais.
Bon, alors, vous avez vu les moineaux, ils sont dans le filet protecteur du terrain de foot, là, il y en a plein. Donc, c'est les petits moineaux domestiques.
Vous connaissez tous les moineaux.
Oui.
Vous savez la différence qu'il y a entre le mâle et la femelle ?
Non.
La femelle. Alors, on est un petit peu loin, c'est vrai. Mais ils sont assez différents. Bon, c'est simple, hein, c'est comme chez les hommes finalement. Le moineau, il a une cravate, le moineau mâle. Il a une petite cravate, il a un petit. Il a son poitrail qui est un petit peu brun, alors que la femelle, elle est dans des tons gris assez uniformes. Il a aussi une petite casquette chocolat, je crois.
Oui, un peu marron.
Un peu marron, voilà. Et donc, si on en voit de plus près, si on les regarde, vous verrez les moineaux qui sont. Donc, le moineau mâle est un peu plus contrasté. Et ce qu'on entend là, c'est c'est l'étourneau qui est là, il est tout près au-dessus du bénéficiaire. Et donc vous pouvez l'observer.
Les étourneaux, il y en a beaucoup. Hein.
Oui, et ils vivent en bande. En hiver, ils se regroupent en bande. Alors regardez à la longue vue. Daniel nous a mis le.
Oui, Adèle, j'ai mis.
Il est sur le sable.
Ah ouais.
Regarde, avec tes jumelles, tu dois le voir, ma chérie.
Ah ouais, c'est sympa, on voit vachement bien.
Relayez-vous sur la longue vue pour voir.
Ah ouais, puis comme si on entend le son, on le voit en même temps. Donc ça permet chanter. Bien de.
On le voit chanter.
On le voit chanter, ouais.
Oui, je le voyais.
Pardon. Daniel.
Il est un petit peu moins irisé parce que les oiseaux, ils sont plus beaux au moment des plumages nuptiaux. Donc après, ils vont passer un petit peu plus en éclipse, en plus.
Ça veut dire quoi, irisé?
Irisé, c'est-à-dire qu'il est noir métallique avec des reflets. On dit irisé.
Irisé, d'accord.
Comme l'œil est irisé un petit peu.
Ah, l'iris.
Voilà.
Ah, c'est ça le. D'accord.
Des reflets irisés, c'est-à-dire brillant. Brillant, métallique. C'est assez joli quand même. Parce
et c'est donc le même qui a ce plumage-là.
Oui.
Passe après un plumage.
Voilà, ils sont un petit peu. C'est pareil, les mésanges, là, ils vont commencer de nouveau à se refaire des plumages beaucoup plus brillants, beaucoup plus jolis. Puis après, elles vont avoir leurs petits. Elles vont beaucoup nourrir et on va voir que tout le plumage, les plumes s'usent. Donc elles s'usent, elles perdent de leur couleur, elles deviennent moches. Et après, les plumes, elles tombent et ils en refont d'autres. Hein.
Un temps de ma vie, je quitte mon père. La ville attend des petits rats des champs. Une jolie fermière me dit où vas-tu? Monte derrière avec les laitues. Les pieds dans le ciel chez les hirondelles. Nous filons doux et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière. Nous irons danser au bal des oiseaux. De la rivière, les prés sont verts. Quel âge as-tu, toi? Café au lait, on me donne rien, même un morceau de pain. La campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons danser au bal des oiseaux, près de la rivière.
Nathalie, un petit mot sur la mare ?
Donc la mare qui est ici, on pense que c'est un bassin qui a été creusé dès l'époque romaine, donc on est vraiment juste à proximité des thermes gallo-romains. Le jardin qui est derrière nous, c'est la mise en valeur de ce bâtiment, les thermes gallo-romains. Et donc les thermes, c'est vraiment le bâtiment dans lequel on peut parler de la gestion de l'eau chez les Romains. Donc il y a beaucoup d'aspects qui sont évoqués, l'adduction d'eau, la gestion des eaux usées et aussi la gestion des eaux de pluie. En fait, tout le bâtiment était entouré d'un réseau de fossés. Et ce réseau de fossés, en fait, se dirige vers cette mare. Donc il est probable que déjà à l'époque romaine, le bassin a été creusé pour récupérer les eaux de pluie.
Alors, les arbres.
Et les arbres qui sont derrière nous. C'est l'entrée dans le jardin archéologique, alors se fait par l'autre chemin, mais est bordée par cette allée de poiriers à feuilles de saule, qui, alors là, quand on est très près, on aperçoit bien les petites spores, du coup. Mais de loin, ils ont un port qui fait penser à l'olivier. Oui. Le jardin archéologique, il a été créé pour mettre en valeur les thermes, pour créer un lieu propice à la promenade, pour se dépayser complètement, changer vraiment de paysage, c'est-à-dire par rapport à ces grands champs ouverts. L'idée, c'était qu'on abandonne ce plateau complètement normand actuel et qu'on s'immerge dans l'époque gallo-romaine. Donc on a choisi les poiriers à feuilles de saule qui résistent très bien et qui sont rustiques.
Alors, une toute petite critique par rapport à ça, c'est vrai que sans doute les gallo-romains d'ici, de Normandie, n'avaient pas d'olivier.
N'avaient pas d'olivier, on est bien d'accord. Donc le but du jardin archéologique, c'est pas de recréer le paysage de l'époque, puisqu'en fait le paysage de l'époque, c'était des prairies, très certainement comme celle qui est juste à côté, ce qui est très bien, mais ce qui permettait pas de recréer un petit cocon en fait pour se préparer à la visite des thermes. Donc en fait, les prairies qui sont sur de chaque côté du jardin, elles par contre qui sont pâturées, c'est vraiment le paysage qu'on devait avoir ici il y a 2000 ans. On le sait grâce aux études de pollen qui nous ont aussi permis de retrouver la trace de champignons microscopiques qui sont présents uniquement quand on a des herbages pâturés. Donc on sait qu'autour des thermes, c'était vraiment comme ce que vous voyez juste à côté.
Ceci dit, d'un point de vue du paysage, c'est quand même intéressant parce qu'on a, par rapport aux grands champs céréaliers autour, on a une diversité ici, on a des pâturages qui n'existent pas autrement, qui n'existaient pas ici, on a des arbres, on a un parc, et du coup, enfin j'espère que la sortie nous le montrera, on a une diversité qui favorise les oiseaux, qui favorise l'environnement en général et les oiseaux en particulier, quoi. On a plus d'oiseaux en faisant une sortie ici qu'en faisant une sortie dans les grands champs qui sont autour. Quoi. Petit insecte comme ça.
Il est parti là.
Non, il est toujours sur la barrière.
Ah, oui. Il vient s'envoler.
Ah, ça y est, il s'est envolé.
Ça y est, trop tard.
Tu as fait ça ?
Ouais, j'ai l'impression que c'est moi.
Moi aussi, toi. Je
me suis levé à ce moment-là.
Les cris d'alarme, c'est les cris de merle qu'on entend. Et puis je pense que notre on a un pivert qui est là. Alors, il habite le coin, hein, vous le connaissez bien. Donc, je pense qu'il est juste là. On va avancer ensemble doucement. Et peut-être on va le voir.
Ouais. Pas que sans tornicher, ils sont vraiment moineaux. Hein.
Oui, c'est vrai.
Ah, ouais.
C'est vrai. Mais il a le bec plus fin, noir. Il est plus uniforme. Il est un peu moucheté. Ouais. Il est un peu différent quand même. Mais c'est vrai qu'on peut le confondre au début. Alors. Un merle qu'on aperçoit là. Ouais. Alors prenez le temps de regarder le merle. C'est un oiseau qu'on pense banal. Et quand on le regarde attentivement, c'est superbe avec son bec jaune et il a un cercle orbitaire, il a un cercle autour de l'œil jaune. C'est magnifique un merle en fait, un merle mâle.
Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre le pic vert? Parce qu'il y a le pic noir, le pic vert et le pivert. C'est pas les mêmes oiseaux.
Pivert, c'est pic
voilà.
Vert, oui.
Pic vert
oui,
et
oui,
pivert, c'est pareil.
D'accord. Oui. Qui alarme. Regardez les merles là-bas. Et non, il est parti. Il est parti, notre truc. Non, le voilà. Hop, vous le voyez s'en aller là. Il était là.
Et regardez la façon dont.
C'est marrant comment il vole.
Tiens, il y a un oiseau noir qui s'est posé. Voilà.
Vous l'avez vu. Ah, je vous l'avais annoncé. Hein.
Oui. Voilà.
Hop, et le petit accenteur mouché, toujours, qui est allé dans son buisson. On a entendu une alouette, oui.
Voilà.
Vous avez entendu l'alouette ?
Il y a une alouette dans le coin.
Le merle, le cri d'alarme du merle.
Parce que. Il y a peut-être les
perdiers qui... Ah, il y en a un chasseur qui va faire fuir. Il va les faire fuir, lui, hein, je crois. S'il met deux coups de fusil, c'est fini. Hein. Il n'a plus de pierre.
observation ornitho. C'est ton petit carnet d'ornithologue. Tu vois, c'est où comme si t'en as hein, donc, ces petits carnets-là, on en a tous hein, pour mettre dans la poche avec le petit crayon. Puis on note tous les oiseaux qu'on rencontre avec le lieu et puis la date. Après, nous, on va retranscrire ça sur une fiche hein, qu'on appelle une fiche site. Et on met des petites croix. Et sur cette fiche site, après, on l'envoie à notre base de données. Et ça nous permet de voir après, donc,
un
vrai fichier de base de travail pour après faire des études sur les répartitions des oiseaux, aussi bien en quantité. Hein, c'est-à-dire s'il y a une quantité importante de merles, et puis donc en qualité, voir s'il y a de nombreuses espèces. On peut avoir beaucoup d'espèces, mais peu d'oiseaux en individu. Mm-hmm. On peut avoir parfois de fortes populations. Donc tout ça, ça va nous permettre de voir, de faire des cartes de répartition sur toute la Haute-Normandie.
Et justement, et la LPO, c'est normand ou c'est national et alors, tous les fichiers sont regroupés.
La LPO est nationale, hein, c'est la LPO France, et donc il y a des associations locales, il y a des groupes hein, suivant l'importance. Nous, nous sommes donc la Haute-Normandie.
Je me demandais d'où vient l'argent en fait pour avoir le matos.
L'argent,
c'est vraiment que du bénévolat, c'est
là,
la passion.
C'est du matériel personnel là. Les petites jumelles que nous avons prêtées, ce sont des jumelles qu'on a pu acheter parfois avec des subventions. Par exemple, la ville d'Évreux nous donne une subvention. Oui. On a acheté des jumelles là, qui sont toutes neuves comme.
Oui, voilà.
Là,
donc
ici,
en fait, quand les gens arrivent, viennent vous voir, vous distribuez des paires de jumelles.
On peut prêter des jumelles. Ça, c'est des municipalités qui nous ont donné une petite aide. Et donc on investit, on fait un dossier bien sûr, et on fait bien sûr sur Évreux, il y a des animations gratuites, etc. Et donc c'est une façon de
oui, parce que la marche qu'on fait ensemble, elle est gratuite.
Elle est gratuite.
Elle est ouverte à tous.
Elle est ouverte à tous, la LPO ne fait pas payer.
Ok.
La LPO ne fait pas payer ses sorties.
Super.
Non, c'est encore une hirondelle.
Ah oui, c'est une hirondelle.
Elle est par là.
Oui. Oh. Une hirondelle rustique.
Non, ça, hein
ah ben ça, c'est marrant.
Oui. Par Marquinet, c'est une hirondelle.
Deux hirondelles rustiques. Et t'as vu, Daniel? Deux hirondelles rustiques.
Encore.
Petit fait doux. Et donc, ça va encore durer, le beau temps.
Ah ben vous me foutez en l'air mon exposé moi, elle devrait plus être là.
Il paraît qu'il y a eu deux nichées cette année.
Ah oui, mais ça, les hirondelles, quelquefois
c'est pas sûr qu'il y en ait tous les ans.
Non, mais quelquefois c'est trois.
Oui. Ah oui, trois.
Elles ont fait deux nichées chez moi, dans mon garage.
Oui.
Donc je peux confirmer, effectivement. Ouais. Alors il y a une grive dans le buisson. Je crois que c'est une grille, il faudrait mettre la jumelle. Vous voyez le buisson qui est vert. Alors il y a plein d'oiseaux. Regardez, posez les jumelles, il y a plein d'oiseaux.
Près de la rivière, les prés sont verts. Comment vas-tu, toi? J'ai trouvé une place au piano dans un bar, le Miami Palace, tout près de la gare. Samedi
en mer de vie.
Ici, alors bien sûr, il est un peu... Il est abîmé, hein, parce que les oiseaux ne se resservent pas du nid d'une saison sur l'autre, parce que les nids s'abîment. Alors est-ce après, en regardant... Ah, éventuellement, on va le prendre.
Il y a une plume.
Alors celui-là, bon, il est vraiment fait de brindilles. Il n'a pas de mousse. À mon avis, c'est pas un nid de pinson, parce que le pinson, il est beaucoup mieux construit que ça. Je ne sais pas. Hein. Par contre, on voit bien l'utilisation de matériaux, hein, d'abord fait par un entremêlat de petites graminées. Et puis là, on a des racines plutôt, voyez-vous. Parfois, ils les retapissent de mousse. Ils font d'abord la construction externe et puis après, ils viennent tapisser avec ça pour que ça soit un petit peu plus douillé.
Plus douillé.
Et un nid, ça resserre jamais.
Non, non, non.
Pour aucune espèce.
Non. Ah bah, parfois, il y en a qui vont squatter.
Comme le coucou. Ah,
voilà, le coucou. Mais le coucou, il va venir quand l'oiseau est en train de nicher. Mmh. L'oiseau a posé ses nids, il va venir. Le coucou, il va arriver, l'autre s'en va. Mmh. Il vire les nids ou les œufs, ou il met son œuf et s'en va. Et donc, l'oiseau va être piégé. Ça peut être un tout petit oiseau qui va couver un coucou. Hein. Donc, bien sûr, il faut que ce soit des oiseaux qui sont dans les bois, hein, parce que le coucou est surtout dans les bois. Mais sinon, non, là, voyez-vous, le nid s'abîme. Donc, ils ne vont pas le réutiliser.
D'accord.
L'année prochaine, ils peuvent, parfois, s'ils font deux nichés, ils peuvent reprendre le même nid, parce que c'est deux couvaisons qui se suivent. Dans nos nichoirs, quand on construit des nichoirs, ils vont l'utiliser deux fois dans l'année. Mais après, à l'hiver, tout ça, avec les intempéries, les nids sont
abîmés. Oui, ils se détruisent d'eux-mêmes.
Ils se détruisent d'eux-mêmes.
Ils sont biodégradables, quoi.
Voilà.
C'est bien,
oui,
ça.
Exactement.
Ils sont écologiques, les oiseaux.
Mais oui.
Alors la linotte, la voilà. Donc ça, c'est en été quand même. Hein. C'est quand
elle détruit
est,
les
superbe.
Haies.
C'est superbe.
Avec la destruction des haies entraîne...
Oui, les haies que... des champs, c'est
oui,
ça
voilà,
ils
voilà.
séparaient les parcelles.
Bah voilà, donc on a fait du remembrement, donc on a supprimé des haies. Et en fait, la haie a un rôle primordial dans la biodiversité, parce qu'elle va accueillir des oiseaux. Donc ces oiseaux, eux, vont aller se nourrir d'insectes, etc. Donc s'il y a moins d'oiseaux, il y aura plus d'insectes. Donc comme il y a plus d'insectes, ils mettent des insecticides. Donc c'est néfaste. Donc en ce moment, il y a des campagnes pour replanter des haies. Et pareil, quand on va replanter des haies, on va prendre des espèces qui sont vraiment...
Qui attirent certaines espèces d'oiseaux.
Et puis qui sont des espèces locales. Enfin, c'est toujours respecté pour le sol, pour le paysage et pour qui attirent vraiment les oiseaux. Parce que si on met des plantes qui viennent d'autres pays, elles vont pas
exotique.
Avoir les dates de floraison, de fruits ne vont pas correspondre au moment où les oiseaux en ont besoin. Et puis certains oiseaux n'iront pas dessus parce que bon, c'est pas ça. Mais on voit là tout ça, là, c'est. La haie, elle est protectrice en même temps. Elle nourrit.
Un triton.
Ouais. Photographier pour le conseil général.
Pardon ?
Faut le photographier pour le conseil général.
Ah oui, c'est un triton alpestre. Ah génial. Alors, regardez, je vais le retourner, vous allez voir son ventre.
Il va s'envoler. Ah, il est trop... ouais, d'accord.
Ventre tout orange. Ah, superbe. Ah, bah, bonne...
Donc ça, c'est signe de bonne qualité d'eau, c'est ça, non ? Les tritons, quand ils sont présents ?
Bonne qualité de l'environnement, bonne mare. Ah,
il a le ventre tout jaune.
Il a le ventre tout jaune. Tu veux voir le ventre encore ?
Oui, je peux. J'aimerais le prendre en photo.
Ah bah, prends-le en photo déjà comme ça.
C'est bon.
Ne le touche pas trop, il vaut mieux éviter.
Tout petit.
Il est plus rapide
on
comme les chats.
Ah, oui,
et triton alpestre.
C'est quoi ? C'est un jeune ou non ?
Alors, il faut savoir que les tritons, donc d'abord, comme vous pouvez le constater, le triton est un animal terrestre, contrairement à ce qu'on peut croire. Et ils ne deviennent aquatiques que quand. Alors, d'abord, quand ils sont sous forme de larves. puisque là, ils ne respirent que dans l'eau, et quand ils doivent se reproduire. C'est un animal qui ne peut pas se reproduire sur Terre. Son œuf a besoin d'eau. Il ne fait pas partie de ce qu'on appelle les amniotes, hein. Comme nous. Il n'a pas de poche amniotique. Alors, je le libère. Pardon ?
Photographier sur l'herbe.
Alors, je vais le remettre dans l'herbe. Vous ferez attention de ne pas l'écraser.
Trop beau.
Et donc, vous voyez, probablement, il va se reproduire dans la mare qui est là-bas. Donc, vous voyez le parcours qu'il peut faire. Alors, je le libère, c'est bon ?
Allez.
Dans le nid ?
Il est où, ce
bouton ? Là.
Ah oui.
Et alors, ce que il n'a pas le même aspect quand il est comme ça et quand il est dans la mare. Il change un peu de
couleur,
de forme,
de couleur.
Il prend son habit de fête puisque c'est la reproduction, donc il doit forcément séduire un peu. Et évidemment, sa peau est aussi adaptée au milieu aquatique quand il est dans la mare et qu'il se reproduit. Et là, elle est plus épaisse pour mieux résister dans l'air.
Puis il va hiverner.
Et quel est son prédateur ?
Oh, ben, les oiseaux qu'on voit pourraient très bien, s'ils tombaient dessus, les manger. Hein. Mais c'est assez fragile comme animal, ça doit se cacher. Même des rongeurs pourraient en manger.
Sa grandeur
enfin... Ah bah sinon les faucons, tous les oiseaux.
La grandeur, il reste.
Alors là, je pense que c'est un jeune là quand même.
Oui.
Non, normalement ça atteint plutôt une dizaine de centimètres, une bonne dizaine de centimètres.
Ah ouais, ça reste petit quand même.
Ça reste petit, oui. Oui, ça reste petit. Le plus grand des tritons, alors on a quatre sortes de tritons en Normandie. On a le triton alpestre, celui-là. On a le triton ponctué. On a le triton palmé et on a le dragon des mares qui est le plus grand, qui est le triton crêté, qui a sa crête justement quand il est en période de reproduction et qui est superbe. Et alors lui, il peut atteindre pas loin de 20 cm. Donc ça, c'est impressionnant.
Il y a deux semaines, à la réserve ornithologique de la Grande Noé, c'est à Val-de-Reuil, et on est parti avec les gens qui étaient là reconstruire des berges pour que les oiseaux puissent nicher et puissent élever leurs petits, enfin pondre, etc. Et c'était chouette, mais ces trucs qui sont pas assez connus en fait. Mais il y a un site internet qui s'appelle J'agis
pour la nature.
Ouais. Et en fait, où les différentes associations peuvent mettre, quand elles font des chantiers d'éco-volontariat, donc il suffit de
Donc en fait, des chantiers d'éco-volontariat, ce sont des gens qui sont bénévoles,
ouais,
qui ont envie de faire bien les choses,
ouais,
qui se regroupent.
Qui sont passionnés par la nature, souvent. Moi, cet été, je suis allée faire un chantier d'éco-volontariat dans le Vercors, avec une association qui s'appelle A Pas de Loup, Mille Traces. Et on a construit des nichoirs à chouettes... pour la chouette de Tegman, donc c'est une autre chouette qui est dans la montagne. Et c'est super, en fait, pendant une semaine, on a vécu dans la forêt. Et puis on a construit des nichoirs à chouettes. Et après, on est allé les poser à 7,50 m de haut, et c'était super.
C'est super.
Et en fait, quand tu tapes sur ce site, ou même chantier d'éco-volontariat, il y a tout ce qui existe, dont notamment à la réserve de la Grande Noé, ils font deux fois par an. Il y a des reconstructions de berges. Donc on part en bateau et on pioche, on bine, forcément.
Mais le site J'agis pour la nature, quel que soit le département dans lequel tu es, tu peux regarder s'il y a des chantiers qui existent, et ou même avec la LPO, hein, il y a toujours des choses qui...
Et donc vous, justement, vous faites partie aussi de la LPO ?
Non, moi je suis opportuniste.
Ok. Alors, et quel est votre point de vue justement sur ce type de sortie ? On mêle un petit peu l'histoire, là, le Gisacom et la LPO en même temps, le fait de faire une balade instructive pour le monde des animaux, et puis en même temps le...
Bah ouais, c'est super,
je trouve ça bien de c'est complémentaire.
Oui, ça paraît complémentaire, ouais. Ouais, c'est vraiment de nouveau.
Le seul bémol, c'est les chasseurs. Sont les chasseurs, pardon. Parce qu'on aurait pu aller un peu plus loin et s'enfoncer un peu plus
sur
la forêt.
Bon, on n'a pas entendu de coup de feu quand même, hein, faut le dire, mais...
J'ai dû
enlever l'alarme.
C'est ça,
c'est vrai, on a eu pas mal. D'accord.
Oui,
c'est
ça. Sur les oiseaux.
Bien sûr, ça perturbe. Il était là près du truc, donc c'est sûr que les oiseaux sont...
Et ça fait fuir le pivert qu'on espérait revoir. désespérément. Mais...
Une année, il y avait eu une animation à Gisacom, c'était sur les paysages. On pourra en reparler parce que dans un des puits là-bas, lors des fouilles d'un puits, ils ont retrouvé une petite pelote de réjection d'une chouette chevêche. Donc qui date du 3e siècle. Alors on peut se dire, ah, la petite chouette qu'elle a, est-ce que c'est une petite
dans la
descendante
lignée, la descendante de
pied. Rêver, hein,
ah ouais, c'est, ouais, c'est possible.
Moi, moi, je dois y aller. Je vous dis merci, parce que c'était vraiment chouette.
Oui, oui.
Et puis, prendre l'air, c'est sympa. Et
oui,
puis,
oui.
Plein de choses sur la nature. Merci.
Oui, oui. Bah, puis, à bientôt.
À bientôt, bien sûr.
Au marché. Ou...
Et non, je ne le sais plus, mais oui,
mais
autre
oui,
part, dans les trucs
merci
nature,
pour le témoignage.
De rien, mais je vous ça permet plein de choses, la
ça
nature.
Plein de choses. Ouais.
C'est vraiment bien,
c'est
le
super.
Lien. Bref, je m'en vais.
Donc, vous conseillez à tous les auditeurs participatifs de participer à ces manifestations.
Mais évidemment.
Ça marche. Bon, on vous laisse rentrer chez vous.
Bonsoir.
Allez, ciao, ciao. Ah, merci. Et merci pour votre accueil, en tout cas. Merci.
C'est plus facile.
Okay. Au revoir, Daniel.
Au revoir. Merci, Kevin. C'était sympa.
À une prochaine.
Ouais, c'est cool.
Et on vous tient au courant pour ce qu'on va pouvoir faire de l'enregistrement.
Non, mais on s'en va.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Et, bah, merci. Merci. Bah, c'est nous. Merci en tout cas. Au revoir, à une prochaine. Au revoir.
Bah voilà, vous n'êtes pas ennuyés, dis donc, Fred et Kevin. Ça avait l'air vraiment sympa.
Ouais, c'était une bonne sortie. Un dimanche matin, c'est plutôt rare pour moi.
Alors oui, il faut bien dire qu'on partait un petit peu à l'aventure, mettre le réveil à 9h, se lancer dans... Enfin, nous, c'est des sorties qu'on n'avait jamais faites auparavant, donc c'est vraiment un petit monde qu'on découvrait. Les oiseaux, je ne peux pas dire que c'était ma grande passion, mais on a passé une bonne matinée enrichissante, on a croisé des gens plutôt sympathiques, c'était plutôt souriant. Et plutôt pédagogique. Et voilà, moi, il y a certaines espèces que je découvrais, ou du moins que je connaissais le nom, mais que j'ai eu l'espoir de reconnaître ou d'identifier. C'était plutôt sympathique.
Donc, vous vous rappelez, ça s'est passé où ?
Bah, écoute, ça se passait sur le site archéologique d'Evreux, au Vieil Evreux, à
Gisacom.
Voilà, ouais, exactement. Gisacom. Et moi, personnellement, pareil, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais je pense que Philippe, tu peux nous en parler, parce que là, justement, c'était une deuxième session, c'était la session d'automne, parce qu'au Gisacom, vous faites des activités.
Oui, alors.
Et là, avec la LPO, c'est greffé dessus pour pouvoir, justement, faire une pédagogie.
Bon, chaque année, on aime bien, on s'entend bien avec les gens de Gisacom, les gens du centre archéologique, on fait des choses. Daniel racontait que, par exemple, ils nous ont donné, enfin pas donné, prêté une petite pelote de réjection de chouette qu'on a disséquée, on a essayé de regarder ça.
Ah, ça
donc, et puis chaque année, on fait des petites animations avec eux. Et on s'intègre à leur programme d'animation. Donc il y a Nathalie Gobert qui parlait là un peu d'archéologie, qui, on fait ça avec elle. Et cette année, le thème, c'était les saisons. Donc, ils ont un thème pour la cuisine, pour tout ce qui est archéologie. Et nous, avec les oiseaux, on s'est greffé. Je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant de parler des saisons et des oiseaux. Et donc, on a fait une première session au printemps, où on a vu un certain nombre d'oiseaux. Évidemment, en automne, on ne voit pas les mêmes. Donc, c'était intéressant de comparer, puis de parler un petit peu des migrations des oiseaux, de comment ils se comportent au cours des saisons, quoi.
Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de saisons, puisqu'on, à cette date avancée, on a vu des hirondelles ?
Alors, c'est vrai que c'était surprenant, c'était une petite surprise, l'hirondelle, là. Elle était tardive. Mais bon, on a encore... c'est vrai que c'est agréable. En hiver, on a froid, en été, quelquefois, on a trop chaud. Mais moi, j'aime bien ce temps, cette zone tempérée. Je serais malheureux, je crois, si j'étais dans une zone tropicale où il y a tout le temps un peu la même... J'aime bien l'alternance des saisons, le fait de voir la nature changer, le fait de se réjouir au printemps de réentendre les chants d'oiseaux, de revoir les hirondelles.
Alors justement, j'ai une petite question là-dessus, parce que bon, c'était intéressant ce concept avec Gisacom de voir les oiseaux, mais en même temps, il y avait un petit défaut, c'était le bruit ambiant, finalement, parce qu'il y avait quand même la route qui est à côté, donc même si on sent une pédagogie
entre
les
oiseaux... C'est l'amateur de radio là, qui est sensible au son.
Et, oui, non, mais c'est vrai, mais à un moment donné, on se demande, à mon avis, vous devez le faire, c'est faire des immersions plutôt en pleine nature, qui doit être peut-être un peu plus...
Est-ce qu'il y a d'autres, justement, sorties, découvertes
Oui, oui, il y en aura d'autres, bien sûr. Et puis, on s'intéresse... évidemment, quand on s'intéresse aux oiseaux, on s'intéresse au regard. On doit les regarder, on doit apprendre à les reconnaître. Mais le son, l'oreille, l'ouïe est vraiment très important. Et quand on est ornitho, on reconnaît plus souvent les oiseaux par l'oreille que en les voyant. En les voyant, généralement, c'est très fugace, ça s'envole, on voit une silhouette, donc on finit par savoir les reconnaître parce qu'on connaît leur façon de voler. Mais c'est plus souvent...
Ça, c'était le plus impressionnant, je trouvais, parce que moi, personnellement, j'étais là, j'entendais des sons, et vous, tac au tac, tac, vous entendez les sons, ça, c'est un tel, et des fois, enfin, je vais être franc, des fois, je les entendais même pas. Ça.
Ce alors, qui était amusant aussi, c'est que au son encore il n'y avait pas de discussion, mais au vol,
oui, au quelques... vol. Ouais, ouais. Ah non, 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 il n'a pas laissé de voir. Si, si, elles sont blanches, le bout est...
Alors, qui trouve-t-on dans ces sorties? Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent ou pas?
Alors, il y a un certain nombre d'habitués. On a des amis qui viennent. Et alors là, un de mes plaisirs à cette sortie, c'est que j'ai une petite voisine, enfin, elle est presque voisine, il y a une petite gamine de... Quel âge est-elle? Emma, elle a 10 ans peut-être, elle est encore à l'école primaire et ça fait plusieurs sorties qu'elle fait avec nous. Donc oui, il y a quelques habitués et puis ça me fait plaisir de voir des jeunes comme ça qui s'intéressent à l'ornitho. Mais on avait un groupe de Parisiens qui avaient simplement vu sur les rencontres du hérisson qui avait cette sortie et qui se sont dit tiens, on va venir. Et c'était très sympa.
Alors qu'est-ce qui motive l'organisation de ces sorties? C'est vraiment sensibiliser à la fragilité, à la richesse naturelle ou bien...
Oui, alors il y a deux aspects. D'abord, moi, ça me fait très plaisir parce que j'aime bien ça. Je fais des sorties tout seul. Alors c'est vrai qu'il y a un plaisir aussi à sortir tout seul. Et comme tu me disais, on cherche des endroits qui sont peut-être un peu plus calmes, on est plus tranquille. Mais l'organisation des sorties, il y a le plaisir de partager cette passion, peut-être le plaisir, comme peut-être avec Emma un jour, peut-être qu'elle sera passionnée, qu'elle deviendra ornitho, donc ça fait toujours plaisir de partager une passion. Et puis, il y a aussi quand même un désir, c'est de convaincre ces gens-là que cette nature, elle est intéressante. Quand on s'intéresse aux oiseaux, mais on peut s'intéresser aux plantes, on peut s'intéresser aux
mammifères, ça touche à tout,
on peut s'intéresser aux oui, à tout. On s'intéresse à la nature et du coup, on a envie de la protéger, cette nature. On a envie de pas y déverser trop de pesticides,
oui,
de pas l'abîmer.
Parce que tout est lié. On peut parler des corridors biologiques pour les oiseaux, justement, les petits massifs qui vont peut-être, on va dire, couper les champs, qui permet tout simplement d'éviter, en fait, de réduire les pesticides, parce que les oiseaux vont être là, la nature va être là pour trouver un nouvel équilibre. C'est aussi un changement de conception.
Oui, et puis à ce niveau-là, on peut dire aussi que la sortie, elle est faite à Gisacom, parce que Gisacom, comme ils ont voulu reconstituer le site, c'est un site où il y a des arbres, il y a des haies, alors que toute la plaine autour est c'est un désert végétal. C'est-à-dire que toutes les terres sont labourées. C'est vraiment un espèce de petit nid, un îlot, au milieu d'une grande plaine céréalière.
Avec
sur
une
le plateau.
Biodiversité, avec, c'est géré par le conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie et ils gèrent le site sans pesticides. Donc c'est vrai que c'est une petite île de biodiversité finalement. Ouais.
Alors vous avez vu quelle espèce remarquable, moi c'est ça qui m'intéressait aussi. Est-ce qu'il y a vraiment des locaux, enfin des espèces, enfin des oiseaux typiques vraiment de ce secteur-là?
Alors, il y avait un grand plaisir à recevoir des gens, à voir... Mais finalement, du point de vue oiseau, ça n'a pas été très très riche. On n'a pas vu des oiseaux exceptionnels. Bon, on a quand même un plaisir à voir le pivert s'en aller, à l'entendre. On a le plaisir de voir une grive, on a le plaisir de qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant? On a vu des merles, on a vu...
on a vu pas mal de choses, ouais.
On a failli voir une chouette, mais elle n'a pas voulu venir au rendez-vous, au piège qu'on lui avait tendu.
Mais justement, après, les citoyens, même ceux qui habitent en ville, pas forcément ceux qui sont à la campagne, alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les oiseaux?
Je voulais juste revenir sur les oiseaux intéressants. On aurait pu quand même rencontrer, il y a des tariers pâtres, j'ai vu des tariers des prés à Gisacom. Il y a quand même des oiseaux qui sont un petit peu intéressants et un petit peu... Mais bon, là, on a vu assez peu de choses, mais finalement... c'est pas forcément les oiseaux les plus exceptionnels qui sont les plus intéressants. Le fait d'être en contact avec la nature et de voir que les oiseaux sont là, le fait de donner envie aux gens de connaître mieux ces oiseaux, c'est déjà intéressant.
Oui, c'est une forme de conscience de la nature, d'être là.
Ouais. Alors tu disais ?
Bah en fait, oui, je demandais, vous, dans votre action justement de la LPO, on peut peut-être aider les oiseaux justement à perdurer, à les aider l'hiver. Qu'est-ce que le citoyen à Évreux et aussi à la campagne, qu'est-ce qu'on peut faire comme petite touche avec ses mains pour aider la nature?
Oui, bien sûr, on peut faire des choses. On a par exemple à la LPO un programme qui est le fait de faire des refuges. Donc chacun d'entre nous peut décider de faire de son balcon, même d'un balcon ou d'un petit jardin, un refuge LPO. Alors, qu'est-ce que c'est que le refuge LPO ? C'est un endroit qui est favorable aux oiseaux, mais favorable à la nature, bien sûr, plus généralement. Et qu'est-ce qu'on s'engage à faire quand on crée un refuge LPO ? Ben, on s'engage à protéger les oiseaux, à les nourrir en hiver, à leur donner à boire. C'est très important de leur donner à boire. Et puis, peut-être, à ne pas mettre trop de saleté dans son jardin. Pour qu'ils puissent se nourrir aussi naturellement, pour que des insectes viennent et qu'ils puissent s'en nourrir.
Alors, est-ce que la LPO, s'il y a des bénévoles qui ont une activité de comptage du
bien
nombre
sûr.
D'individus, etc.
Bien sûr. Là, vous m'avez vu dans mon activité d'animateur, mais l'une des activités qui est vraiment tout à fait passionnante, ce sont les enquêtes scientifiques. Et par exemple, alors là, c'est terminé, mais on a participé à l'atlas des oiseaux nicheurs qui s'est déroulé sur plusieurs années et à l'atlas des oiseaux hivernants. Et donc, dans ces cas-là, on fait des sorties sur des endroits, sur des carrés qui nous sont attribués et on compte tous les oiseaux et on essaye de voir dans tel endroit, dans toute l'heure et à la haute temps, on dit, puisque nous, on avait cette zone-là, quels sont les oiseaux nicheurs dans tel carré. On a des carrés de 10 km sur 10 km et on repère tous les nicheurs ou tous les hivernants en hiver.
Et quand vous faites ce genre de démarche, c'est plutôt une démarche d'inventaire ou il y a une comparaison avec d'autres années ? Vous regardez l'évolution des espèces
Bien sûr, c'est un état qui est nécessaire, qu'il faut faire régulièrement. Et là, les gens de la LPO, les scientifiques responsables des programmes s'étaient rendus compte que ça faisait très longtemps, j'ai oublié la date, hein, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'atlas d'oiseaux ni hivernants ni nicheurs. Et donc, il faut pouvoir comparer. Par exemple, on parle de réchauffement climatique. Bah, est-ce que le réchauffement climatique a un impact sur les oiseaux ? On ne peut répondre que si on fait un atlas, que si on fait un état des lieux et qu'on est capable de dire oui, il y a cet oiseau-là qui a disparu ou qui est apparu.
Justement, donc dans les études, dans les grandes études, les données de la LPO sont recueillies pour...
Bien sûr.
On se sert de vos études, en fait.
Bien sûr. Elles sont partagées. Une fois qu'elles sont faites, on les publie et n'importe qui peut les utiliser, bien sûr. Elles sont au service de la science.
De la communauté.
De la communauté.
Très bien.
D'accord. Alors, si je veux participer à d'autres sorties, est-ce qu'il y a un site internet ? Est-ce qu'il y a une association qui
oui, bien sûr. Alors, on a plein d'associations amies. Hein. Je parlais tout à l'heure du Conservatoire des sites naturels de Haute-Normandie. Il y a aussi un regroupement d'associations qui s'appelle... c'est pas Évreux Nature Environnement, qui publie le guide du hérisson. Alors, je crois que le guide du hérisson, vous l'avez sur Internet. Et puis, il est publié sous forme de papier.
Oui, il se commande que sur Internet, ouais, c'est ça.
Pardon ?
Il se commande que sur Internet.
Non,
peut le trouver sinon sur dans les agences, les offices de tourisme. Oui.
Médiathèques, tout ça, oui.
Voilà, on est en train de constituer... le guide du hérisson, c'est toutes les sorties nature, pas uniquement oiseaux, pas uniquement de la LPO, mais de plusieurs associations. Toutes les sorties nature qui ont lieu en Haute-Normandie, c'est-à-dire en Seine-Maritime et... dans l'heure, et donc c'est publié en année civile, et donc c'est publié sur le papier, et donc nous, quand on en a à la LPO, moi j'en dépose à l'office du tourisme, j'en dépose dans ma mairie, j'en dépose dans les magasins, et donc on peut les trouver gratuitement à ces endroits-là, mais sinon ils se trouvent aussi sur Internet.
Voilà, moi j'ai mis le lien sur notre site, là je viens juste de cliquer dessus, il fonctionne, donc c'est organisé par... Haute-Normandie, Nature-Environnement, voilà. Ça concerne les deux régions.
On dit
ça concerne la région, les deux départements. Bon. Oui. Et donc, oui, c'est vraiment c'est très facile à consulter sur le net. Ça se feuillette, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on peut le feuilleter. On peut trouver toutes les animations. Il y a des animations qui concernent les oiseaux, mais il y a des animations un petit peu sur tous les thèmes.
Voilà, batracien, etc. Voilà.
Dans tout le département, dans toute la région, avec à la fois des sorties, mais il y a aussi des conférences. Il y a divers types d'actions menées.
Et donc au final, alors l'auditeur là qui vient d'entendre tout ça, qui a une sensibilité sur les oiseaux, qui si ça se trouve fait déjà chez lui plein de bonnes actions, il a envie de vous soutenir, rentrer dans l'association. Comment il fait ? Combien il paye ? Où est-ce qu'il s'adresse ?
Il n'y a pas de problème. Ça, c'est une c'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire pour protéger les oiseaux, pour protéger la nature, c'est d'adhérer à la LPO, bien entendu. De toute façon, généralement, moi je dis toujours aux gens, si vous avez une association et que vous êtes d'accord avec ce que fait l'association, la meilleure façon de faire, de lui rendre service, c'est d'adhérer. Puisque, bien sûr, une association, quand elle a 3 adhérents, on lui rayonnait. Quand elle en a 1 million, on lui dit « Bonjour monsieur, asseyez-vous, on va vous écouter ».
Et là, actuellement, donc, la EPO a combien d'adhérents?
Aïe, 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 il faudrait demander ça à Daniel. Qui est
47 000, je crois, moi, un truc
ouais,
comme ça.
50 000, un truc comme ça.
Vous avez l'objectif des 50 000.
On a l'objectif des 50 000.
Et toi du million, mais Daniel de 50 000 déjà. Marche par marche.
Alors justement, à propos de l'LPO, les prochaines sorties parrainées par l'LPO, je crois que tu te les as notées.
Alors, j'ai rien de définitif parce qu'on est en train de constituer le programme en ce moment et ça paraîtra dans le futur guide du Hérisson que vous aurez bientôt. Mais bon, il y a quelques projets. Il y a plein de choses. Le guide du Hérisson actuel, il est valable jusqu'au 31 décembre. Après, il faudra qu'on en fasse un autre.
Ne dis pas qu'il y a une sortie le 31 décembre.
Non, il n'y a pas de sortie le 31 décembre, mais il y a par exemple, il n'y a pas que les sorties, il y a aussi des rencontres le mardi soir, et il y a un mardi du mois de novembre, je ne sais plus, vers la mi-novembre, où on va se réunir, on va accueillir tous les gens qui veulent venir. Et il y a des petites conférences. Enfin, je suis conférence, c'est un peu pompeux comme terme, mais il y a des petites animations sur des termes. Et là, c'est moi qui l'a fait le mi-novembre, et je vais parler de l'intelligence des oiseaux. Donc, c'est un sujet intéressant.
Ah, est-ce que tu peux mettre une petite mise en bouche
Les oiseaux sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on pensait. Quand j'ai fait mes études, moi je suis prof de sciences nat, hein, et quand j'ai fait mes études, on en était encore à l'idée que, vous savez, il y a plusieurs cerveaux. Il y a le cerveau reptilien, il y a le cerveau des mammifères, puis ensuite il y a le cerveau humain. En fait, c'est des bêtises, tout ça, j'allais dire un gros mot.
Oui, parce que tu racontais justement durant la balade que tu observais que l'intelligence des oiseaux, par exemple, ils arrivaient à repérer les gestes quotidiens. Par exemple, si on venait apporter quelque chose tous les jours à la même heure, ils savaient faire, ils venaient...
On s'est rendu compte que le cerveau des oiseaux n'a certes pas la même organisation que celui d'un mammifère, mais ils ont une intelligence comparable. Et on dit par exemple, alors il y a certains oiseaux qui sont bêtes quand même, hein, mais il y a des oiseaux qui sont très intelligents. Et par exemple, dans le groupe des perroquets, il n'y en a pas beaucoup dans l'heure, mais aussi dans le groupe des corvidés, les corbeaux, les pies, les corneilles, bien, il y a des oiseaux très intelligents. Et on dit que les corvidés, un grand corbeau par exemple, aurait l'intelligence d'un chimpanzé.
Oui, j'avais entendu ça, carrément.
Et ils font des choses étonnantes. La pie, par exemple, est un oiseau qui a réussi le test du miroir. Donc, je ne sais pas si vous savez, le test du miroir, c'est quand...
C'est pour la conscience de soi, non ?
C'est la conscience de soi. Et la pie, on lui met une petite pastille, et elle est capable de voir que c'est sur elle et de se retirer la pastille. Donc c'est extraordinaire.
C'est génial.
Quoi. Des animaux qui ont réussi ce test-là, c'est un test qu'on fait pour les petits-enfants, pour savoir à partir de quel moment ils ont conscience d'eux-mêmes. Et ces tests-là, il y a quelques animaux qui l'ont réussi. Je crois qu'il y a des éléphants, il y a les singes,
les dauphins.
Et puis donc une pie. Les dauphins, oui, effectivement.
Ouais. Alors juste pour nos auditeurs, la suite de cette conférence aura lieu le mardi 19 novembre sur le site de la Fédération des œuvres laïques, rue Saint-Thomas à Évreux.
Et tu as vu ça sur le guide du Hérisson.
Voilà.
Et donc, pour l'année prochaine, on a plein de choses. Il y a une petite conférence sur les photographies nature avec Alex. Et il y a quelque chose sur les amphibiens. Il y a quelque chose sur les papillons des jardins.
Très bien.
Oui. Voilà. Continue.
Bon, il y a plein de choses. Il y a sur les libellules. Sinon, on organise des sorties, comme d'habitude, dans le jardin public, au parc de Trangis. Je crois qu'il va y avoir une sortie à l'AMUS aussi. Il y a plein. Celui qui veut faire des sorties, il y a de quoi faire.
Vas-y, Fred.
Alors, l'idée intéressante derrière la photo, ça serait peut-être intéressant pour pas mal de gens de remplacer le fusil par l'appareil photo pour partir à la chasse aux espèces rares et aux bons clichés. Et c'est un autre moyen de découvrir la nature et on se met à l'affût. Enfin, il y a des techniques qui sont très proches de celles de la chasse et qui sont finalement peut-être.
On utilise les mêmes termes, on shoot.
Voilà.
C'est pareil, on ramène le spécimen
à la maison.
Moi, personnellement, je suis pas contre la chasse. Hein. Moi, je veux dire, je veux pas critiquer. Bon, après, on peut voir même des tribus ou des Indiens qui ont un respect pour la nature, mais qui tuent les bêtes quand même. Il y a des gens, même si ça peut paraître absurde parce qu'on peut acheter sa viande en supermarché, mais qui préfèrent traquer une bête que plutôt acheter une viande d'une vache de supermarché, etc. C'est pas forcément.
Non, c'est interdit de traquer les vaches.
Très bien.
Je préfère manger une petite vache bio quand même.
On approche de la fin de l'émission. Un mot pour finir, Philippe ?
Venez dans la nature, adhérez à l'LPO.
Fred ?
Moi, je vais tous, enfin, vous inviter à faire, faire une sortie,
faire une sortie découverte
avec la LPO ou avec, avec un guide. C'est, je trouve toujours intéressant. Voilà. Alors, c'est, ça peut être quelqu'un qui est dans une association, quelqu'un que vous, un ancien, entre guillemets, quelqu'un qui connaît bien la nature. J'ai fait des sorties avec des vétérinaires où c'était aussi très intéressant parce qu'ils ont une belle connaissance de, des espèces, aussi bien végétales qu'animales. Et je trouve ça toujours enrichissant et je trouve que c'est souvent des mots assez riches. Les connaissances des arbres en latin ou les noms des oiseaux qui sont composés, je trouve ça toujours intéressant.
Eh bien, on va s'arrêter là. On se retrouve le 8 novembre donc pour une nouvelle émission d'Un air de vie sur Principe Actif. Je remercie encore Philippe Girard de sa présence et de
toutes ses informations. Merci à vous de m'avoir accueilli.
Voilà, et donc, c'était la première.
Dit, donc au 8 novembre pour une nouvelle émission sur l'eau. À bientôt.
Allez, ciao à tous. Ciao, ciao, bye bye.
Un air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Excellent message, excellent. This is the good news. I'm going to come and pick you up tomorrow.